Chapitre 24. La maison Lazare. Saint-Lazare est une vieille maison aux couleurs de boue. Ce fut jadis un prieuré. Je ne crois pas me tromper, guère en disant qu'on acheva de la bâtir qu'en 1465, à la place de l'ancien monastère de Saint-Laurent, dont parle Grégoire de Tours, comme vous le savez parfaitement, au sixième livre de son histoire, chapitre 9e. Les rois de France y faisaient halte deux fois. À leur entrée à Paris, ils s'y reposaient. À leur sortie, on les y déposait en les portant à Saint-Denis. En face, le prieuré était à cet effet un petit hôtel dont il ne reste pas pierre sur pierre et qui se nommait le logis du roi. Le prieuré devint caserne, prison d'État et maison de correction. Pour les moines, les soldats, les conspirateurs et les filles, on a tour à tour agrandi, élargi, barricadé et verrouillé ce bâtiment sale, où tout était alors d'un aspect gris, maussade et maladif. Il me fallut quelque temps pour me rendre de la place de la Révolution à la rue du Faubourg-Saint-Denis, où est située cette prison. Je la reconnus de loin, une sorte de guenille bleue et rouge, toute mouillée de pluie, attachée à un grand bâton noir planté au-dessus de la porte. Sur un marbre noir, en grosses lettres blanches, était gravée l'inscription générale de tous les monuments, l'inscription qui me semblait l'épitaphe de la nation. Unité, indivisibilité de la République, égalité, fraternité ou la mort. Devant la porte du corps de garde infect, des sans-culottes assis sur des bancs de chêne aiguisaient leurs piques dans le ruisseau, jouaient à la drogue, chantaient la carmagnole et ôtaient la lanterne réverbère pour la remplacer par un homme qu'on voyait armé, amené du haut du faubourg, par des poissardes qui hurlaient le « ça ira ». On me connaissait, on avait besoin de moi, j'entrais. Je frappai à une porte épaisse, placée à droite sous la voûte. La porte s'ouvrit à moitié, comme d'elle-même, et comme j'hésitais, attendant qu'elle s'ouvrit tout à fait, la voix du geôlier me cria « Allons donc, entrez donc !» Et dès que j'eus mis le pied dans l'intérieur, je sentis le froissement de la porte sur mes talons, et je l'entendis se refermer violemment, comme pour toujours, de tout le poids de ses ais massifs, de ses clous épais, de ses garnitures de fer et de ses verrous. Le geôlier riait dans les trois dents qui lui restaient. Ce vieux coquin était accroupi dans un grand fauteuil de cuir noir, de ce qu'on nomme un crémaillère, parce qu'ils ont de chaque côté des crans de fer qui soutiennent le dossier et mesurent sa courbe lorsqu'il se renverse pour se servir de lit. Là dormait, éveillé, sans se déranger jamais, l'immobile portier. Sa figure ridée, jaune, ironique, s'avançait au-dessus de ses genoux et s'y appuyait par le menton. Ses deux jambes passaient à droite et à gauche par-dessus les deux bras du fauteuil pour se délasser d'être assis à la manière accoutumée, et il tenait de la main droite ses clés et de la main gauche la serrure de la porte massive. Il l'ouvrait et la fermait comme par ressort et sans fatigue. Je vis derrière son fauteuil une jeune fille debout, les mains dans les poches de son petit tablier. Elle était toute ronde, grasse et fraîche, un petit nez retroussé, des lèvres d'enfant, de grosses hanches, des bras blancs, et une propreté rare en cette maison. Robe d'étoffe rouge relevée dans les poches, et bonnet blanc orné d'une grande cocarde tricolore. Je l'avais déjà remarqué en passant, mais jamais avec attention. Cette fois, tout rempli des demi-confidences de mon canonnier Blaireau, je reconnus sa bonne amie Rose, avec ce sentiment inné qui fait qu'on se dit, sans se tromper, de l'inconnu que l'on désirait voir. Oh, mais c'est lui! Cette belle fille avait un air de bonté, de prestance, tout à la fois qui faisait, à la fois là, l'effet de redoubler la tristesse du lieu pour lequel elle ne semblait pas faite. Toute cette fraîche personne sentait si bien le grand air de la campagne, le village, le thym et le serpolet, que je mets en fait qu'elle devait arracher un soupir à chaque prisonnier par sa présence en leur rappelant les plaines et les blés. « Mais c'est une cruauté, dis-je en m'arrêtant, une cruauté véritable, que de montrer cet enfant-là au détenu. » Elle ne comprit pas plus que si j'eusse parlé grec, et je ne prétendais pas être compris. Elle fit de grands yeux, montra les plus belles dents du monde, et cela sans sourire, en ouvrant ses lèvres qui s'épanouirent comme un œillet que l'on presse du doigt. Le père grogna, mais il avait la goutte, et il ne me dit rien. J'entrai dans les corridors en tâtant la pierre avec ma canne devant mes pieds, parce qu'alors les larges et longues avenues humides étaient sombres et mal éclairées, en plein jour, par des réverbères rouges et infects. Aujourd'hui que tout devient propre et poli, si vous alliez visiter Saint-Lazare, vous verriez une belle infirmerie, des cellules neuves et bien rangées, des murs blanchis, des carreaux lavés, de la lumière, de l'air, de l'ordre partout. Les geôliers, les guichetiers, les porte-clés d'aujourd'hui se nomment directeurs, conducteurs, conducteurs surveillants, portent une uniforme bleue à boutons d'argent, parlent d'une voix douce et ne connaissent que par oui dire leurs anciens noms, qu'ils trouvent ridicules. Mais en 1794, cette noire maison Lazare ressemblait à une grande cage d'animaux féroces. Il n'existait là que le vieux bâtiment gris, qu'on y voit encore, bloc énorme et carré. Quatre étages de prisonniers gémissaient et hurlaient l'un sur l'autre. Au dehors, on voyait aux fenêtres des grilles, des barreaux énormes, formant en largeur des anneaux, en hauteur des pics de fer, et entrelaçant de si près la lance et la chaîne que l'air y pouvait à peine pénétrer. Au-dedans, trois larges corridors mal éclairés divisaient chaque étage, coupés eux-mêmes par 40 portes de loges dignes d'enfermer des loups, et souvent pénétrés d'une odeur de tanière et de lourdes grilles de fer massives et noires au bout de chaque corridor, et à toutes les portes des loges de petites ouvertures, carrées et grillées, que l'on nomme guichets, et que les geôliers ouvrent en dehors pour surprendre et surveiller le prisonnier à toute heure. Je traversai en entrant la grande cour vide où l'on rangeait d'ordinaire les terribles chariots destinés à emporter des chars de victimes. Je grimpai sur le perron à demi détruit par lequel elles descendaient pour monter dans leur dernière voiture. Je passai à un lieu abominable, humide et sinistre, usé par le frottement des pieds, brisé et marqué sur les murs comme s'il s'y passait chaque jour quelque combat. Une sorte d'auge pleine d'eau, d'une mauvaise odeur, en était le seul meuble. Je ne sais ce qu'on y faisait, mais ce lieu se nommait, et se nomme encore, le casse-gueule. J'arrivais au préau, large et laide, courant chassé dans de hautes murailles. Le soleil y jette quelquefois un rayon triste du haut d'un toit. Une énorme fontaine de pierre est au milieu, quatre rangées d'arbres autour. Au fond, tout au fond, un Christ blanc sur une croix rouge, rouge d'un rouge de sang. Deux femmes étaient au pied de ce grand Christ, l'une très jeune et l'autre très âgée. La plus jeune priait à deux genoux, à deux mains, la tête baissée et fondant en larmes. Elle ressemblait tant à la belle princesse de Lamballe que je détournai la tête. Ce souvenir m'était odieux. La plus âgée arrosait deux vignes qui poussaient lentement au pied de la croix. Les vignes y sont encore. Que de gouttes et de larmes ont arrosé leurs grappes, rouges et blanches comme le sang et les pleurs. Un guichetier lavait son linge en chantant dans la fontaine du milieu. J'entrais dans les corridors et à la 12e loge du rez-de-chaussée, je m'arrêtais. Un porte-clé vint, me toisa, me reconnut, mit sa patte grossière sur la main plus élégante du verrou et l'ouvrit. J'étais chez madame la duchesse de Saint-Aignan. Chapitre 25. Une jeune mère. Comme le porte-clé avait ouvert brusquement la porte, j'entendis un petit cri de femme. Je vis que madame de Saint-Aignan était surprise et honteuse de l'être. Pour moi, je ne fus étonné que d'une chose à laquelle je ne pouvais m'accoutumer. C'était la grâce parfaite et la noblesse de son maintien, son calme, sa résignation douce, sa patience d'ange et sa timidité imposante. Elle se faisait obéir les yeux baissés par un ascendant que je n'ai vu qu'à elle. Cette fois, elle était déconcertée de notre entrée, mais elle s'en tira à merveille, et voici comment. Sa cellule était petite et brûlante, exposée au midi, et Thermidor était, je vous assure, tout aussi chaud qu'il eût été juillet à sa place. Madame de Saint-Aignan n'avait d'autre moyen de se garantir du soleil qui tombait d'aplomb dans sa pauvre petite chambre, que de suspendre à la fenêtre un grand châle, le seul, je pense, qu'on lui eût laissé. Sa robe très simple était fort décolletée. Ses bras étaient nus, ainsi que tout ce que laisserait voir une robe de bal. Mais rien de plus que cela. C'était peu pour moi, mais beaucoup trop pour elle. Elle se leva en disant « Eh mon Dieu !» et croisa ses deux bras sur sa poitrine comme une baigneuse surprise l'aurait pu faire. Tout rougit en elle, depuis le front jusqu'au bout des doigts, et ses yeux se mouillèrent un instant. Ce fut une impression très passagère. Elle se remit bientôt en voyant que j'étais seul, et jetant sur ses épaules une sorte de peignoir blanc, elle s'assit sur le bord de son lit, pour m'offrir une chaise de paille, le seul meuble de sa prison. Je m'aperçus alors qu'un de ses pieds était nu et qu'elle tenait à la main un petit bas de soie noire et brodé à jour. « Bon Dieu ! » dis-je, « si vous m'aviez fait dire un mot de plus !»« La pauvre reine en a fait autant !» dit-elle vivement. Et elle sourit avec une assurance et une dignité charmantes, en levant ses grands yeux sur moi. Mais bientôt, sa bouche reprit une expression grave, et je remarquai sur son noble visage une altération profonde et nouvelle, ajoutée à sa mélancolie accoutumée. « Asseyez-vous, asseyez-vous » me dit-elle en parlant vite, d'une voix altérée et avec une prononciation saccadée. « Oh, depuis que ma grossesse a été déclarée, « grâce à vous, je vous en dois. »« c'est bon, » dis-je en l'interrompant à mon tour, par aversion pour les phrases. « Mais j'ai un sursis, » continua-t-elle, « mais il va, dit-on, arriver des chariots aujourd'hui et ils ne partiront pas vides pour le tribunal révolutionnaire. » Ici, ses yeux s'attachèrent à la fenêtre et me parurent un peu égarés. Les chariots, les terribles chariots, dit-elle. Leur roue ébranle tous les murs de Saint-Lazare. Le bruit de leur roue m'ébranle tous les nerfs. Comme ils sont légers et bruyants quand ils roulent sous la voûte en entrant, et comme ils sont lents et lourds en sortant avec leurs charges. Hélas, ils vont venir se remplir d'hommes, de femmes et d'enfants aujourd'hui, à ce que j'ai entendu dire. C'est Rose qui l'a dit dans la cour, sous ma fenêtre, en chantant. La bonne Rose a une voix qui fait du bien à tous les prisonniers, cette pauvre petite. Elle se remit un peu, se tut un moment, passa sa main sur ses yeux qui s'attendrissaient, et reprenant son air noble et confiant, « Ce que je voulais vous demander, me dit-elle, en appuyant légèrement le bout de ses doigts sur la manche de mon habit noir, c'est un moyen de préserver de l'influence de mes peines et de mes souffrances. L'enfant que je porte dans mon sein, j'ai peur pour lui. » Elle rougit, mais elle continua malgré la pudeur et la soumit à entendre ce qu'elle voulait me dire. Elle s'animait en parlant. « Vous autres hommes et vous, tout docteur que vous êtes, vous savez pas ce que c'est que cette fierté et cette crainte que ressent une femme dans cet état. Il est vrai que je n'ai vu aucune femme pousser aussi loin que moi, ces terreurs. » Elle leva les yeux au ciel. « Mon Dieu, quel effroi divin! Quel étonnement toujours nouveau! Sentir un autre cœur battre dans mon cœur, une âme angélique se mouvoir dans mon âme troublée, et y vivre d'une vie mystérieuse qui ne lui sera jamais comptée, excepté par moi qui la partage. Penser que tout ce qui est agitation pour moi est peut-être souffrance pour cette créature vivante et invisible, que mes craintes peuvent lui être des douleurs, mes douleurs des angoisses, et mes angoisses la mort. Quand j'y pense, je n'ose plus remuer ni respirer. J'ai peur de mes idées, je me reproche d'aimer comme de haïr et de craindre d'être ému. Je me vénère, je me redoute, comme si j'étais une sainte. Voilà mon état. » Elle avait l'air d'un ange en parlant ainsi, et elle pressait ses deux bras croisés sur sa ceinture, qui commençait à peine à s'élargir depuis 2 mois. « Donnez-moi une idée qui me reste toujours présente, là, dans l'esprit, » poursuivit-elle en me regardant fixement, « et qui m'empêche de faire mal à mon fils. » Ainsi comme toutes les jeunes mères que j'ai connues, elle disait d'avance « mon fils », par un désir inexplicable et une préférence instinctive. Cela me fit sourire malgré moi. « Vous avez pitié de moi, » dit-elle. « Je le vois bien aller. Vous savez que rien ne peut cuirasser notre pauvre cœur au point de l'empêcher de bondir, de faire tressaillir tout notre être et de marquer au front nos enfants pour le moindre de nos désirs. Cependant, » poursuivit-elle, en laissant tomber sa belle tête avec abandon sur sa poitrine. « Il est de mon devoir d'amener mon enfant jusqu'au jour de sa naissance, qui sera la veille de ma mort. On ne me laisse sur la terre que pour cela. Je ne suis bonne qu'à cela. Je ne suis rien que la frêle coquille qui le conserve et qui sera brisée après qu'il aura vu le jour. » Je ne suis pas autre chose. Pas autre chose, monsieur. Croyez-vous, et elle me prit la main, croyez-vous qu'on me laisse au moins quelques bonnes heures pour le regarder quand il sera né? S'ils vont me tuer tout de suite, ce sera bien cruel, n'est-ce pas? Eh bien, si j'ai seulement le temps de l'entendre crier et de l'embrasser tout un jour, je leur pardonnerai, je crois, tant je désire ce moment-là. Je ne pouvais que lui serrer les mains. Je les baisais avec un respect religieux et sans rien dire, crainte de l'interrompre. Elle se mit à sourire avec toute la grâce d'une jolie femme de 24 ans, et ses larmes parurent joyeuses un moment. Oh, il me semble toujours que vous savez tout, vous. Il me semble qu'il n'y a qu'à dire « Pourquoi ?» et que vous allez répondre, vous. « Pourquoi, dites-moi, Une femme est-elle tellement mère qu'elle est moins tout autre chose, moins amie, moins fille, moins épouse même, et moins vaine, moins délicate et peut-être moins pensante. Qu'un enfant qui n'est rien soit tout, que ceux qui vivent soient moins que lui, c'est injuste et cela est. Mais pourquoi cela est-il? Je me le reproche. Et calmez-vous, lui dis-je. Vous avez un peu de fièvre, vous parlez vite et haut, calmez-vous. Eh mon Dieu, cria-t-elle, celui-là, je ne le nourrirai pas. En disant cela, elle me tourna le dos tout d'un coup et se jeta la figure sur son petit lit pour y pleurer quelque temps sans se contraindre devant moi. Son cœur débordait. Je regardais avec attention cette douleur si franche qui ne cherchait point à se cacher, et j'admirais l'oubli total où elle était de la perte de ses biens, de son rang, des recherches délicates de la vie. Je retrouvais en elle ce qu'à cette époque j'eus souvent l'occasion d'observer, c'est que ceux qui perdent le plus sont toujours aussi ceux qui se plaignent le moins. L'habitude du grand monde et d'une continuelle aisance élève l'esprit au-dessus du luxe que l'on voit tous les jours, et ne plus le voir est à peine une privation. Une éducation élégante donne le dédain des souffrances physiques et ennoblit par un doux sourire de pitié les soins minutieux et misérables de la vie, apprend à ne compter pour quelque chose que les peines de l'âme, à voir sans surprise une chute mesurée d'avance par l'instruction, les méditations religieuses et même toutes les conversations des familles et des salons, et surtout à se mettre au-dessus de la puissance des événements par le sentiment de ce qu'on vaut. Madame de Saint-Aignan avait, je vous assure, autant de dignité en cachant sa tête sur la couverture de laine de son lit de sangle que j'en avais vu lorsqu'elle appuyait son front sur ses meubles de soie. La dignité devient à la longue une qualité qui passe dans le sang et de là dans tous les gestes qu'elle ennoblit. Il ne serait venu à la pensée de personne de trouver ridicule ce que je vis mieux que jamais en ce moment, c'est-à-dire le joli petit pied nu que j'ai dit, croisé sur l'autre, que chaussait un bas de soie noire. Je n'y pense même à présent que parce qu'il y a des traits caractéristiques dans tous les tableaux de ma vie, qui ne s'effacent jamais de ma mémoire. Malgré moi, je la revois ainsi. Je la peindrai dans cette attitude. Comme on ne pleure guère une journée de suite, je regardais mes deux montres. Je vis à l'une 10h30, à l'autre 11h précises. Je pris le moyen terme et jugeais qu'il devait être 10h3/4. J'avais du temps et je me mis à considérer la chambre et particulièrement ma chaise de paille. Chapitre 26. Une chaise de paille. Comme j'étais placé de côté sur cette chaise, ayant le dossier sous mon bras gauche, je ne pus m'empêcher de le considérer. Ce dossier, fort large, était devenu noir et luisant, non à force d'être bruni et ciré, mais par la quantité de mains qui s'y étaient posées, qu'il avait frottées dans les crispations de leur désespoir, par la quantité de pleurs qui avaient humecté le bois, et par les morsures de la dent même des prisonniers. Des entailles profondes, de petites coches, des marques d'ongles sillonnaient ce dos de chaise. Des noms, des croix, des lignes, des signes, des chiffres y étaient gravés au couteau, au canif, au clou, au verre, au ressort de montre, à l'aiguille, à l'épingle. Ma foi, je devins si attentif à les examiner que j'en oubliais presque ma pauvre petite prisonnière. Elle pleurait toujours. Moi, je n'avais rien à lui dire, si ce n'est « Vous avez raison de pleurer. car lui prouver qu'elle avait tort eût été impossible. Et pour m'attendrir avec elle, il aurait fallu pleurer encore, plus fort, oh non, ma voix. Je la laissais donc continuer, je continuais, moi, la lecture de ma chaise. C'étaient des noms charmants, quelquefois bizarres, rarement communs, toujours accompagnés d'un sentiment ou d'une idée. De tous ceux qui avaient écrit là, pas un n'avait en ce moment sa tête sur ses épaules. C'était un album que cette planche. Les voyageurs qui s'y étaient inscrits étaient tous au seul port où nous soyons sûrs d'arriver, et tous parlaient de leur traversée avec mépris et sans beaucoup de regrets, sans espoir non plus d'une vie meilleure ou seulement d'une vie nouvelle, ou d'une autre vie où l'on se sente vivre. Ils paraissaient s'en peu soucier. Aucune foi dans leurs inscriptions, aucun athéisme non plus, mais quelques élans de passion cachée, secrète, profonde, indiquée vaguement par le prisonnier présent au prisonnier à venir, niériez-les du mort ou mourant. Quand la foi est morte au cœur d'une nation vieillie, ces cimetières, et ceci en était un, ont l'aspect d'une décoration païenne. Tel est votre père Lachaise. Amenez-y un hindou de Calcutta et demandez-lui quel est ce peuple dont les morts ont sur leur poussière des jardins tout petits remplis de petites urnes, de colonnes d'ordre dorique ou corinthien, de petits arcades de fantaisie à mettre sur sa cheminée comme pendule curieuse, le tout bien badigeonné, marbré, doré, enjolivé, vernissé, avec des grillages tout autour, pareils aux cages des serins et des perroquets. Et sur la pierre, des phrases semi-françaises de sensiblerie, ricobonienne, tirées des romans qui font sangloter les portières et dépérir toutes les brodeuses. L'hindou sera embarrassé. Il ne verra ni pagode de Brahma, ni statue de Vishnu, aux trois têtes, aux jambes croisées, aux sept bras. Il cherchera le lingam et ne le trouvera pas. Il cherchera le turban de Mahomet et ne le trouvera pas. Il cherchera la junon des morts et ne la trouvera pas. Il cherchera la croix et ne la trouvera pas. Ou là, démêlant avec peine à quelques détours d'allée, enfoui dans des bosquets et honteuse comme une violette, il comprendra bien que les chrétiens font exception dans ce grand peuple. Il se grattera la tête en la balançant et jouera avec ses boucles d'oreilles en les faisant tourner rapidement comme un jongleur. Et voyant des noces bourgeoises courir en riant dans les chemins sablés et danser sous les fleurs et sur les fleurs des morts, remarquant l'urne qui domine les tombeaux, n'ayant vu que rarement prier pour lui, prier pour son âme, il vous répondra: oh, très certainement, ce peuple brûle ses morts et enferme leurs cendres dans ses urnes. Ce peuple croit qu'après la mort du corps, tout est dit pour l'homme. Ce peuple a coutume de se réjouir de la mort de ses pères et de rire sur leurs cadavres parce qu'il hérite enfin de leurs biens ou parce qu'il les félicite d'être délivré du travail et de la souffrance. Puis ce Shiva aux boucles dorées et au col d'azur, adoré de tous les lecteurs du Véda, me préserver de vivre parmi ce peuple qui, pareil à la fleur d'Ouroui, a comme elle deux faces trompeuses. Oui, le dossier de la chaise qui m'occupait et qui m'occupe encore était tout pareil à nos cimetières. Une idée religieuse pour mille indifférentes, une croix sur mille urnes. J'y lus mourir, dormir, rougeau de mon codriffe, garde du corps. Oh, il avait apporté, me dis-je, la moitié d'une idée d'Hamlet. C'est toujours pensé. Frailty, the name is woman. Je dis de Gautier. Mais à quelle femme pensait celui-là? Me demandai-je. C'est bien le moment de se plaindre de leur fragilité. Et pourquoi pas, me dis-je ensuite, en lisant sur la liste des prisonniers sur le mur, âgé de 26 ans, ex-page du tyran. Pauvre jeune page, une jalousie d'amour le suivait à Saint-Lazare. S'il veut être le plus heureux des prisonniers, il ne pensait pas à lui-même. Oh, le bel âge où l'on rêve d'amour sous le couteau. Plus bas, entouré de festons et de lacs d'amour, un nom d'imbécile. Ici a gémi dans les fers Agricola, adorable Franconville de la section Brutus, bon patriote, ennemi du négociantisme, ex-huissier, ami du sans-culottisme, il ira au néant avec un républicain sans tache. Je détournai un moment la tête à demi pour voir si ma douce prisonnière était un peu remise de son trouble. Mais comme j'entendais toujours ses pleurs, je ne voulus pas les voir, décidé à ne pas l'interroger, de peur de redoublement. Il me parut d'ailleurs qu'elle m'avait oublié, et je continuai. Une petite écriture de femme, bien fine et déliée. Dieu protège le roi Louis XVII et mes pauvres parents. Marie de Saint-Chamond, âgée de 15 ans. Pauvre enfant. Oui, j'ai retrouvé hier son nom et vous le montrerai sur une liste annotée de la main de Robespierre. Il y a en marge beaucoup prononcé en fanatisme contre la liberté, quoique très jeune. Quoique très jeune, il avait eu un moment de pudeur, le galant homme. En réfléchissant, je me retournai. Madame de Saint-Aignan, entièrement et toujours abandonnée à son chagrin, pleurait encore. Il est vrai que 3 minutes m'avaient suffi, comme vous pensez bien, pour lire et lire lentement, ce qu'il me faut bien plus de temps pour me rappeler et vous raconter. Je trouvais pourtant qu'il y avait une sorte d'obstination ou de timidité à conserver cette attitude aussi longtemps. Quelquefois, on ne sait par quel chemin revenir d'un éclat de douleur, surtout en présence des caractères puissants et contenus qu'on appelle froids parce qu'ils renferment des pensées et des sensations hors de la mesure commune et qui ne tiendraient pas dans des dialogues ordinaires. Quelquefois aussi, on ne veut pas en revenir, à moins que l'interlocuteur ne fasse quelques questions sentimentales. Oh, cela m'embarrasse. Je me retournai encore, comme pour suivre l'histoire de ma chaise et de ceux qui avaient veillé, pleuré, blasphémé, prié ou dormi.